À la fin du mois de septembre, le Comité consultatif national d'éthique rendait un avis favorable à l'extension de la PMA, procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Parmi les membres de cet organisme consultatif indépendant, on retrouve des médecins, des chercheurs et également des philosophes. Lorsque la médecine rencontre la philosophie avec d'un côté une science qui cherche à préserver ou rétablir la santé des patients et de l'autre une réflexion critique sur l'existence humaine. Alors dès l'Antiquité, un lien était reconnu entre corps et esprit, ce qui rendait déjà logique l'association entre médecine et philosophie. Cette dernière regroupait d'ailleurs l'ensemble des sciences. Ce regard réflexif porté sur ce qu'il se passe dans les établissements de santé s'intéresse à la relation humaine qui s'établit entre un médecin et son patient, et c'est même un triangle médical qui se dessine si on y intègre les proches du patient. Au-delà du geste technique, qu'est-ce qu'il se joue lors d'une consultation ou d'un traitement? Comment annoncer une maladie ou y réagir lorsqu'on nous l'annonce? Comment affronter l'idée de la mort, de la souffrance? Les informations sur ma santé sont-elles synonymes ou non de liberté? Autant de questionnements philosophiques issus de la vie quotidienne qui sont centraux dans le milieu médical et qui traversent les époques, même si certaines problématiques sont bien liées à un contexte historique. Aujourd'hui, alors que les progrès dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé s'accélèrent avec l'innovation technologique, les philosophes entrent dans les établissements de santé pour réfléchir à la dimension éthique et morale des actes pratiqués. Bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invitée est Jacqueline Lagré. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite à l'université Rennes 1, philosophe et membre du comité d'éthique médicale au CHU de Rennes. Et en 2017, vous avez publié l'ouvrage « Le médecin, le malade et le philosophe » aux presses universitaires de Rennes. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'Homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour.
Colette, je vous laisse la parole.
Jacqueline Lagré, dans votre livre, vous nous rappelez que la collaboration entre les médecins et les philosophes est une longue histoire, qu'une vieille rivalité entre médecins du corps et médecins de l'âme opposait Hippocrate et Platon. Et qu'au IIe siècle de notre ère, Galien écrivait un essai intitulé « Qu'un excellent médecin est aussi philosophe ». Pourquoi ces deux disciplines, médecine et philosophie, sont-elles aussi étroitement liées ?
Probablement parce que on ne peut pas vraiment séparer les mots qui touchent l'esprit et les mots qui touchent le corps, et que dès l'Antiquité, on s'était bien rendu compte que l'homme était un être un, et que c'est quand il cessait d'être un qu'il devenait malade. Que la maladie, c'était d'abord une division, une disharmonie, comme on disait. Ensuite, il faut se rappeler que la philosophie, dans l'Antiquité, ça regroupait l'ensemble des sciences jusqu'à une période, disons jusqu'à l'âge classique, et que donc, il était logique que médecine et philosophie aient des liens.
Et pourquoi vous, qui êtes une spécialiste de Spinoza et des néo-stoïciens, pourquoi avoir choisi d'étudier spécialement ce thème philosophie et médecine ?
Les raisons sont purement anecdotiques. Je ne serais pas venue à la réflexion sur la bioéthique si, lorsque le comité d'éthique de Rennes a été créé en 1981 ou 2, je crois, juste après le comité national, les médecins du comité d'éthique cherchaient un philosophe et une femme, parce qu'il n'y avait pas de femme. Et Jean de Lumeau leur a dit « Moi, je vous donne les deux en une personne ». Donc, je suis rentrée au comité d'éthique par hasard. Je me suis passionnée pour les sujets qu'on étudiait, et c'est à la suite d'une dizaine d'années plus au comité d'éthique que Bayard m'a demandé, les éditions Bayard m'ont demandé de réfléchir à un livre sur ce thème. Et c'est eux d'ailleurs qui ont imposé ce titre que je trouve horrible, mais bon.
Ah pourquoi ? Pourquoi ?
Oh, parce que ça fait le philosophe en position de surplomb. Moi, je voulais intituler ce livre « La consultation ». Parce que je crois que c'est un moment décisif de la relation thérapeutique. Et que la consultation, ça dit bien ce que c'est. C'est une activité de dialogue et de conseil. Alors que le vocabulaire médical dans son ensemble est terriblement militaire. On fait des ordonnances, des prescriptions, etc. La consultation, c'est un beau titre.
Sure.
Enfin, je veux dire, c'est un beau thème.
Hein, on y reviendra. On y reviendra. Christian Lebar.
Oui, quand on est frappé dans votre ouvrage par la pertinence des références à des auteurs anciens, alors même que, vous le montrez aussi très bien, le monde de la médecine, le monde de la consultation est un monde qui est incroyablement soumis à l'histoire, les nouvelles technologies sont absolument décisives et les questions d'éthique se posent dans des termes qui sont impensables il y a encore 30-40 ans. Et malgré ça, quand on lit des figures comme le malade, le médecin apparaissent presque échappées à l'histoire. En tout cas, quand on lit ce que Montaigne peut dire sur son rapport à la maladie, il y a quelque chose d'anthropologiquement très hors du temps, qui renvoie, je vais utiliser un mot que en tant que sociologue je ne devrais pas utiliser, mais qui renvoie presque à la nature humaine.
Oui, mais la réponse est assez facile, c'est que la question du mal-être ou la question du salut, qui est très proche de la question de la santé, c'est une question pérenne, c'est une question qui traverse toute l'histoire. Et par conséquent, on peut lire des philosophes anciens, mais je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'on pourrait lire des mythologies ou des poèmes très anciens, et on retrouverait ce problème du mal-être qui est un des aspects de la maladie. Et le médecin, c'est pas simplement un technicien, c'est pas simplement quelqu'un qui travaille derrière un ordinateur, c'est quand même quelqu'un qui, normalement, doit toucher le malade. La dimension clinique est essentielle dans la médecine. Donc, qu'il y ait des questions qui soient pérennes, enfin, qui traversent le temps, c'est parfaitement normal. Et puis, il y a des aspects pratiques. C'est vrai que je vois mal un philosophe de l'Antiquité s'interroger sur la procréation médicalement assistée.
Par exemple, d'accord. Oui.
Mais, et que la PMA, ça pose des problèmes particuliers, on est d'accord. Mais dans tous les cas, même sur la PMA, c'est le problème du désir d'enfant. C'est le problème de la naissance, c'est-à-dire de la nouveauté, de la singularité. Ce sont des problèmes qui traversent toute l'histoire de la philosophie. Donc ça n'a rien d'étonnant. Et puis il faut reconnaître quand même que Montaigne ou Aristote, ils ont écrit des choses qui demeurent et qui font réfléchir, quoi.
Et alors peut-être au-delà de ça, ce qui m'a frappé aussi, c'est la confiance que vous accordez aux acteurs, aux gens qui sont impliqués dans des relations thérapeutiques. Vous disiez tout à l'heure que vous n'aimiez pas les connotations un peu surplombantes du titre que l'éditeur avait donné à votre livre. Donc vous n'êtes pas du tout dans la posture du philosophe froid ou du philosophe juge ou du philosophe qui, je sais pas quoi, tirerait les marrons du feu ou séparerait le bien et le mal du haut de la montagne. Et du coup, vous êtes plus sur, peut-être c'est aussi l'enseignement de Montaigne, sur l'idée qu'il y a une philosophie dans les pratiques quotidiennes, enfin où tout acteur est capable de philosopher sur sa pratique, ou est-ce que j'exagère ?
Oui, vous exagérez évidemment, parce que c'est pas parce que le philosophe n'est pas le juge au-dessus des parties que sa position est équivalente à celle de n'importe quel autre. Je veux dire, le philosophe, c'est celui qui a appris à analyser des concepts, à discerner. Mon travail, c'est de mettre des mots autant que possible justes, précis, sur des expériences que tout le monde vit, mais sans savoir comment ils les vivent ou sans comprendre ce qu'ils vivent exactement. Et le plus beau compliment qu'on m'ait fait jusqu'à présent, c'est de dire « tu as su mettre des mots OTS sur mes mots MAUX ». Voilà, c'est pas une position de surplomb, mais on utilise des outils théoriques qu'on a acquis par une pratique en d'autres domaines.
Puisque vous parlez de mettre des mots et d'analyser des concepts, la santé, tout simplement. C'est peut-être sûrement pas aussi simple. Les gens, au moment de la nouvelle année, se souhaitent une bonne santé, surtout quand on vieillit, une bonne année. Et surtout quand on vieillit, les gens rajoutent, et surtout...
une bonne santé.
Une bonne santé. Mais c'est quoi la santé ?
J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais qu'il y a des définitions qui ont été données à l'OMS. Freud disait être en bonne santé ou être normal, c'est être capable d'aimer travailler. Moi, je dirais que la santé, c'est d'être capable d'avoir des relations.
C'est la disponibilité, en fait.
Non, c'est la capacité d'échange, ouais. et la capacité de créer quelque chose, d'imaginer, de faire. Ce qui fait que quand on est malade de manière grave, dans certaines maladies chroniques très invalidantes, eh bien le malade est obligé d'imaginer d'autres manières de créer. Mmh. Je cite l'exemple de Joé Bousquet, un poète qui avait été, qui était devenu paralysé à la guerre de 14-18 et qui a passé sa vie dans une chambre, ce qui n'est pas tellement exaltant, mais qui avait une telle aura et qui a fait tant de poèmes que sa chambre était devenue un salon littéraire. Alors je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, hein, mais je veux dire qu'il y a une capacité extraordinaire chez certains malades d'inventer des modes de vie qui leur permettent de continuer à être eux-mêmes, d'être fidèles à eux-mêmes, sans nier la maladie, sans être dans le déni.
Mais c'est, je vous ai demandé c'est quoi la santé, évidemment je vous demande c'est quoi la maladie. Dans votre livre, vous rappelez, moi je l'ai appris, que les anglo-saxons disposent de 3 mots, nous un seul. J'aimerais bien que vous parliez de ça.
Oui, je ne sais pas si on dispose seulement d'un seul mot, parce que ce qu'on appelle la maladie, c'est un trouble organique ou psychique qui empêche la personne de continuer à vivre normalement ou à faire ce qu'elle a à faire. Bon, avec des si je prends par exemple le diabète, s'il n'est pas soigné, il y a un risque de cécité ou de malformation du rein, enfin d'anomalie, de pathologie du rein. Mais La maladie, c'est pas forcément la déficience. Il y a une forme de la maladie qui est un trouble organique, qu'on doit élucider et soigner. Et puis il y a la maladie comme mal-être, se sentir mal dans sa peau, ne pas retrouver son équilibre. Et puis il y a la maladie comme souffrance aussi.
Oui. Et alors de ce point de vue-là, l'opposition classique entre l'esprit et le corps, est-ce que les choses n'ont pas un peu bouché? C'est-à-dire, comment la philosophie, elle pense aujourd'hui cette opposition-là? Parce qu'il y a un héritage quand même, qui est un héritage très, très dualiste, hein, c'est assez classique, alors que...
Je ne crois pas que le modèle dominant aujourd'hui soit dualiste.
Non, tout à fait.
Le modèle dominant, c'est plutôt que les propriétés psychiques sont une production du cerveau. Mais comme on ne sait pas penser ça, on a inventé le concept de survenance. Les philosophies même dites dualistes, on dit toujours que le dualisme est hérité de Descartes, mais même ces philosophies-là, elles ont pensé l'union de l'âme et du corps, puisque Descartes distingue entre l'esprit qui pense, le corps qui vit de sa vie organique, et puis ce qu'il appelle le vrai homme, qui est à la fois esprit et corps. Donc l'idée que une bonne santé, ça rend plutôt de bonne humeur, et qu'un trouble physiologique, ça vous rend plutôt maussade, c'est quand même une observation de bon sens qu'on a faite depuis très longtemps. Donc je ne crois pas qu'on puisse vivre dans cette opposition de l'esprit du corps. Distinction, faut bien, parce qu'il y a des capacités de pensée qui semblent indépendantes d'un trouble du système digestif. On peut penser à Pascal, qui probablement est mort d'un cancer des intestins, mais qui, quand il avait mal aux dents ou mal au ventre, faisait un problème de mathématiques, le donnait à faire à tout le monde et promettait un prix et gagnait toujours, puisqu'il avait déjà résolu le problème. Donc, on sait bien qu'avoir une activité intellectuelle, ça peut empêcher de penser par moment à sa maladie. Donc, je ne sais pas comment il faut penser.
Est-ce que, par exemple, la montée en puissance des sciences cognitives, est-ce que ça interpelle en philo sur,
Beaucoup. Mais un, j'en parlerai pas parce que je ne connais pas assez bien. D'autre part, parce que ce à quoi ça aboutit, c'est-à-dire le transhumanisme, me paraît une sottise.
C'est quoi le transhumanisme ?
C'est le fait qu'on va créer un homme qui vivra 200 ans, qui peut-être dont la mortalité reculera le plus possible et qui sera réparé à chaque fois comme on répare une voiture en changeant tous les organes défaillants. Sauf que si on a comme ça des vieux qui se portent bien très très longtemps, eh bien on n'aura plus besoin de bébés.
Je vous interromps. Oui. Vous avez en ce moment sur Arte une série qui s'appelle Ad Vitam, 6 épisodes. exactement sur ce thème-là. Les gens vivent 150, 160 ans. Il n'y a plus besoin des jeunes. Les jeunes, on se demande ce qu'ils font là. Et les vieux se régénèrent.
Oui, mais il ne faut pas oublier que la naissance, c'est-à-dire l'arrivée d'un autre individu, pour des raisons qui sont d'abord biologiques, c'est-à-dire son code génétique, c'est l'arrivée d'une singularité totale. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et ceux qui veulent vieillir indéfiniment sont des gens qui ont peur de la nouveauté. Or, pour moi, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, la nouveauté.
Tout à l'heure, vous, après la question de Christian sur la notion de le corps et l'âme, dans la maladie en tant que rupture et crise, vous citez à un moment une de vos amies qui dit « Mon corps ne joue plus le jeu que j'ai dans ma tête ». C'est une très belle phrase.
C'est une très belle phrase, c'est quelqu'un qui s'appelle Anne, qui est atteinte d'une maladie auto-immune dégénérative et qui a vu sa vie complètement bouleversée, pas détruite justement, mais qui a inventé d'autres modes de plaisir. Je disais, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de motos. Bon, elle ne peut plus en faire, ou des petits trajets, mais elle continue à accompagner des motards et à vivre la vie qu'elle menait avant, avec des limites.
Mais
je veux dire, la maladie, ça vous impose de mettre l'imagination au pouvoir. Hein. Ou bien vous décidez que non, je ne me laisserai pas abattre, mais... alors il y a des gens qui disent je me battrai jusqu'au bout, notamment dans le cas du cancer, mais c'est pas simplement se battre contre la maladie, c'est aussi imaginer d'autres modes de vie. La maladie peut détruire, mais elle peut aussi inciter à être créatif d'une autre façon.
Il y a un discours aujourd'hui que je trouve très, très ambivalent, dont je ne sais pas quoi penser, qui tend, un peu dans le sens de ce que vous indiquiez, à faire de la maladie une épreuve, mais alors au double sens du terme, c'est-à-dire évidemment une épreuve et une souffrance, mais aussi une épreuve dont on peut sortir, alors différent sans doute, mais pourquoi pas grandi, plus vrai, la maladie comme expérience d'authenticité au fond.
Alors moi je me méfie beaucoup de ce genre de discours.
C'est
à la mode, mais je pense que c'est la laïcisation d'un vieux discours religieux moralisateur qui dit « Vous souffrez, c'est affreux, mais c'est Dieu qui vous a envoyé ça. » Et alors, vous avez plusieurs solutions. Vous faites votre purgatoire sur Terre ou vous en sortirez plus grand et plus sain, etc. Plus sain, INT. Je crois que c'est de la foutaise. C'est-à-dire que c'est se moquer du monde parce que ce sont des bien portants qui disent ça.
Durant des siècles, le christianisme identifia le malade au pécheur. Il le sacrifia à la colère divine. Et comme tous les malheureux, les malades essaient d'obtenir miséricorde.
Archives de l'Institut national de l'audiovisuel, extrait du documentaire « Les malades passent à l'acte », qui analyse comment le malade a été amené à devenir acteur de sa maladie.
En même temps, on a tous entendu des malades dire que la maladie, c'est aussi l'occasion de faire le tri entre
l'essentiel
et l'accessoire.
Mais c'est à eux de le dire, pas à nous.
Oui. Mais on l'entend.
Ah ben on l'entend.
Le prendre au sérieux.
Il faut le prendre en sérieux quand ce sont des malades qui le disent et quand ils disent comment ils ont fait le tri. Mais quand ce sont des gourous qui le disent, non, je dis, il ne faut pas se moquer du monde. Il ne faut pas justifier la maladie. La maladie, c'est un malheur, c'est un mal. Contre le mal, il faut se battre. Donc là-dessus, il n'y a pas de nuance. La maladie n'a pas de valeur. Mais d'un mal peut sortir un bien, quand même. Et d'une maladie, on peut sortir effectivement une transformation de soi. Mais il faut pas. Sinon, on dirait, oh, qu'est-ce que tu as de la chance quand même. T'es malade, alors tu vas pouvoir devenir quelqu'un d'extraordinaire. Non, personne n'a le droit de dire ça.
Il y a quelques jours, Philippe Lançon, un des rescapés du carnage de Charlie Hebdo en 2015, a obtenu pour son livre Le Lambeau le prix Fémina. Il raconte qu'il est devenu. Un autre homme qui a vraiment un avant, un après, et y compris physiquement, dans la reconstruction de son visage. mais tout est reconsidéré. Lui, c'est un autre homme. Qu'est-ce que vous pensez ça, vous me disiez que vous l'aviez lu, vous étiez en train de le lire.
Je trouve que c'est un grand livre. C'est un livre qui doit se lire en prenant le temps. Et moi, je l'ai lu en 5 jours, passé à l'hôpital pour une opération qui n'était pas une opération particulièrement dangereuse. Enfin, c'était quand même une opération du cœur un peu sérieuse, quoi. Donc, j'ai pris le temps de le lire. Et j'y retrouvais des impressions que moi j'avais connues à l'hôpital, du genre on vous réveille toujours à des heures impossibles à l'hôpital pour vous prendre votre tension, mesurer ceci et cela. Et dans le moment entre le sommeil et le réveil, vous avez un moment de demi-conscience où, dit-il, je sentais l'odeur du café, le pain grillé, c'est-à-dire tout ce qui fait le plaisir du petit déjeuner. Et moi, j'ai fait cette même expérience. Seulement, quand on se réveille et qu'on vous amène le café de l'hôpital, c'est pas exactement ni le jus d'orange pressé que vous vous faites le matin. Et ce que je trouve admirable dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de lamentation. Il y a de sa part et de la part de son entourage, parce que quand même la famille a été assez extraordinaire dans ce cas-là, et les amis aussi, une volonté de rendre les choses heureuses. Il y a une scène extraordinaire où un ami violoniste vient le voir et met une partition tout sur le lit, en commençant par un côté et en finissant par l'autre. Et puis va au début de la partition, commence à jouer et fait le tour du lit en jouant ce morceau. Ça, c'est extraordinaire.
Dans les choses qui m'ont frappé dans ce livre, j'ai pris juste quelques notes que je voudrais vous lire. Il dit, par exemple... Quand il parle de l'attentat, où il dit l'accident, où il dit l'attentat. Je n'ai plus de souvenirs sensibles de mon corps d'avant l'accident. Je vis des sensations nouvelles.
Oui.
Il dit ça. Il dit, cela peut sembler paradoxal, mais pendant quelques mois après l'accident, j'étais au meilleur de ce que je pouvais être, dans l'ordre de la patience, de l'endurance et de la bienveillance.
Oui.
Alors qu'il vivait 17 opérations, une... Douleur,
oui, puis il a quand même été plus de 6 mois à l'hôpital.
Hein. Oh ben, oui. Bien plus, oui.
Enfin, 6 mois à la Salpêtrière, puis après aux Invalides. Ensuite... Mais c'est la manière dont il décrit son rapport au médecin et à sa chirurgienne est assez extraordinaire. Et quand elle lui dit, bon, maintenant, il faut que vous en alliez, parce que c'est pas que vous soyez guéri, mais vous êtes en train de perturber tout le service parce qu'on s'occupe que de vous, c'est très, très juste, ça. Il y a des malades auxquels on s'attache et puis ils prennent toute la place. Non, c'est un livre très très juste, mais je pense qu'on ne peut comprendre que quand on a un certain âge et qu'on est déjà passé par l'hôpital. Parce que c'est pas un livre moralisateur, c'est un livre sans ressentiment, c'est un livre qui n'est pas triste, il est même assez serein, mais... Il n'édulcore pas non plus la souffrance, le mal-être, la difficulté relationnelle avec son ami de ce moment-là.
Et il dit aussi, les livres de Kafka, la musique de Bach, les peintures de Velázquez ont participé à ma guérison. On est souvent confronté à des gens qui pensent que la culture, c'est un à côté plus ou moins chic. Eh bien non, la culture, on vit en plein dedans. Et visiblement, la culture... a été un facteur extrêmement important pour rester vivant.
Parce que c'était déjà quelqu'un de cultivé. Je ne sais pas si ça marcherait pour un paysan qui souffre d'insuffisance cardiaque et qui n'a quasiment jamais lu un livre.
Mais la musique alors peut-être.
La musique ou, mais peut-être est-ce l'occasion de lui faire découvrir des livres. De ce point de vue-là, il y a quand même à l'hôpital, des gens qui amènent des livres et qui...
Est-ce que l'important, c'est pas qu'il y ait simplement dans l'hôpital des traces de vie, enfin des morceaux de vie? Alors la vie de Philippe Lançon, c'est Kafka et je sais plus, Velázquez. Ce qui est très frappant, par exemple, dans les hôpitaux pour enfants, c'est qu'on les incite à venir avec des jouets.
Tout à fait.
On transforme les salles d'opération en salles...
On
multiplie les signaux qui...
Même pour les adultes. Moi, j'ai vu en neurologie à Pontchaillou un médecin inciter un malade à aller dans la bibliothèque des médecins parce que c'était un intellectuel, que sa vie c'était les bibliothèques, et que en l'envoyant lire un livre qu'il voudrait, enfin ou regarder dans les livres de la bibliothèque, on lui redonnait un pas dans sa vie d'avant.
Et alors, ce qui amène à la question peut-être de votre expérience au sein du comité régional de bioéthique, est-ce que la discussion est... Enfin, encore une fois, la médecine apparaît aujourd'hui de plus en plus technique et de plus en plus soumise à des contraintes techniques. Et alors, comment est-ce qu'on peut intervenir pour introduire cette dimension-là, qui est une dimension de... Au fond, de prise en compte d'une personne qui n'est pas seulement un petit sac de pathologies ou de symptômes, mais qui est une vraie personne.
Je crois qu'il y a quand même beaucoup de médecins qui souffrent d'être réduits à des analystes programmeurs. Ça a commencé chez les radiothérapeutes qui disaient « Nous, on fait marcher la machine, mais on ne parle pas avec les gens. » Et on voudrait pouvoir communiquer avec les gens pour donner un peu du sens à ce qu'on fait. Un médecin, le plus spécialiste de tous, ça n'est ni un biologiste qui fait de la recherche scientifique, même si par ailleurs il peut en faire pour sa propre recherche, ni un technicien qui répare une machine, c'est pas un garagiste. Mais moi je dis qu'un médecin c'est un artiste et un artisan. C'est un artisan parce qu'il maîtrise une technique de pointe, et il l'utilise au service de l'amélioration de l'état de son patient, guérison ou amélioration, ou survie dans des conditions convenables. Mais c'est aussi un artiste, parce que s'il prend vraiment acte de la singularité de chaque patient, il soignera chacun d'une manière différente. La médecine, c'est un art entre la science et la technique. Ça se situe entre les deux. C'est un art savant.
On y reviendra après la pause. On va écouter Son Little qui nous interprète Doctor's Inn.
Thank you.
Vous écoutez Canal B, à l'instant c'était Sun Little avec le titre Doctors In. Vous êtes dans Chercheurs en Ville et aujourd'hui nous recevons Jacqueline Lagré pour parler du regard philosophique posé sur la relation médecin-patient. En première partie d'émission, vous avez pu comprendre la naissance des liens entre philosophie et médecine dès l'Antiquité. Les questions de santé ont traversé l'histoire avec des problèmes qui évoluent et le philosophe intervient alors pour mettre des mots sur des expériences et comprendre ce qui se joue dans la relation patient-médecin, écouter également les différentes façons dont les patients gèrent leurs souffrances. La médecine s'affirme alors comme un véritable art entre science et technique. À présent, il va être question du comité d'éthique du CHU de Rennes et plus précisément de son fonctionnement et de l'évolution des problèmes soumis au regard des philosophes, de la procréation médicalement assistée au débat sur la fin de vie. L'occasion de réaffirmer la nécessité d'une communication bienveillante entre médecins et patients et le respect des choix de ce dernier. Pour en parler, Jacqueline Lagré, professeure à l'Université de Rennes 1, philosophe et membre du comité d'éthique médicale au CHU de Rennes. Elle répond aux questions de Colette David et Christian Lebar, tout de suite dans la deuxième partie de Chercheurs en Ville.
Nous sommes toujours avec Jacqueline Lagré pour parler des rapports entre médecins, malades et philosophes. Et on poursuit sur le comité d'éthique et c'est Christian Lebar qui intervient.
Oui, j'aimerais bien que vous reveniez sur votre expérience au sein de ce comité régional de bioéthique, en revenant peut-être d'abord, ce qui est une façon de renouer avec la question qu'on posait tout à l'heure de la relation entre le monde médical et des philosophes de profession, dire que comment a pu naître de leur côté le besoin de faire appel à un éclairage philosophique, c'est-à-dire quels étaient les problèmes auxquels ils étaient confrontés et qui ont suscité cet appel du pied.
Alors, le comité d'éthique à Rennes, ça a d'abord été ce qu'on a appelé le comité régional d'éthique, qui était indépendant du CHU et qui a été créé à la suite de la création du comité national d'éthique. Donc, on a créé des comités régionaux. Et ensuite, il y a quelques années, ce comité s'est éteint et a pris la place un comité d'hôpital avec une proportion déterminée de médecins, infirmières, personnes de la société civile, etc. Bon. Il se trouve que j'ai fait partie du premier, je fais partie du dernier, je suis la doyenne, peut-être pas en âge, mais au moins en présence, ou l'histoire de ce comité. Donc quand je vais mourir, ce sera une bibliothèque qui va brûler, comme on dit en Afrique. Et les problèmes ont quand même assez évolué dans l'histoire du comité. On est parti essentiellement de problèmes liés à la procréation médicalement assistée, parce que c'était une technique nouvelle, que les sécos avaient fixé des règles, mais même qu'avec ces règles, il y avait des problèmes qui se posaient. Par exemple, un monsieur qui fait congeler son sperme parce qu'il a un cancer, et pour faire une insémination artificielle, mais il meurt avant la date prévue pour l'insémination artificielle. Est-ce que l'insémination doit avoir lieu ou pas? Normalement, non, mais bon, voilà, des objets de discussion. Après, sont venus des questions liées à l'évolution des techniques de procréation médicalement assistée, à leur élargissement, à leur destinataire, etc. Et puis, après ces problèmes-là, on a vu apparaître beaucoup les problèmes de fin de vie et de soins palliatifs. Ça peut être lié aussi au fait qu'un des présidents du comité d'éthique était le responsable du CECOS, du Centre de procréation médicalement assistée, et que l'actuel président ou coordinateur, comme il préfère dire, est Vincent Morel, qui est le chef des soins palliatifs au CHU. Mais à côté de ces problèmes-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que les gens ne souffrent pas, pour que leur désir de mourir soit analysé et qu'on sache si c'est un désir de mourir ou un désir de ne pas souffrir, il y a eu aussi d'autres questions qui tenaient à la gestion de maladies chroniques chez des enfants, à l'adoption d'enfants abandonnés devant le centre de Champy avec une lettre disant que la famille était atteinte de chorée de Huntington et donc ils ne voulaient pas garder l'enfant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le propose à l'adoption? Est-ce qu'on fait des tests? Enfin, vous voyez, des problèmes de toutes sortes. Alors, d'où ils naissent, hein, puisque c'est votre question? Faut pas rêver, c'est pas la majorité des médecins qui se soucient de faire appel au comité d'éthique. Parce qu'ils pensent que la morale, ils ont appris ça quand ils étaient petits, donc ils savent gérer et que la dimension éthique, elle n'est pas essentielle ni pertinente. Alors quand est-ce qu'on fait appel au comité d'éthique ? Ben, quand il y a un conflit entre des médecins. Par exemple, conflit entre le médecin de famille et le médecin de l'EHPAD. Ça, on a vu ça souvent. Ou quand on a affaire à un médecin qui se pose des questions, on a vu ça en réanimation par exemple, et qui se dit, bon, il y a des questions qui sont posées avant et des questions qui sont posées après. Hein. Avant, que dois-je faire? Après, est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Pourquoi est-ce qu'on y se pose cette question? Tout simplement parce qu'il va y avoir des questions de l'équipe médicale, il va y avoir des questions des soignants. Pourquoi on a fait ça? Il y a une insatisfaction. Et qu'il faudra bien qu'à un staff, on dise, voilà, les raisons. Ou on interroge le comité d'éthique qui dit, oui, vous avez eu raison parce que. On n'a jamais eu à dire jusqu'à présent, vous avez eu tort parce que. Mais ça pourrait arriver. Donc, le comité d'éthique, il est important pour permettre d'élucider une situation. Je prends un exemple, une jeune femme qui envisage une grossesse et qui a des ganglions qui lui font un peu peur, qui va voir le centre anticancéreux, on lui dit non, il n'y a pas de problème. Elle dit, ben, il n'y a pas de problème, je peux commencer une grossesse, oui, oui, pas de souci. Et puis, l'été se passe et elle revient, et elle a encore des problèmes de ganglions, on découvre, elle est enceinte, mais c'est effectivement un cancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le médecin dit, il faut avorter. La femme dit, je veux pas. Le mari dit, je ferai ce que je veux ma femme. Bon, ben voilà, le problème est amené, il est analysé, disséqué, et le comité ne dit pas ce qu'il faut faire. Il analyse et il conseille. Il donne un avis qu'on peut suivre ou ne pas suivre. Mais très souvent, je dirais presque toujours, le simple fait que ça soit écrit et analysé aide les gens à prendre leurs décisions en connaissance de cause. Ils vont peut-être prendre la même décision, pas forcément. Hein. Il y a des cas, c'est une autre décision que celle qu'ils avaient envisagée avant. Mais dans les deux cas, qu'ils persévèrent ou qu'ils ne persévèrent pas, ils le feront en sachant pourquoi ils le font. Et en étant au clair avec eux-mêmes, ils seront en paix avec eux-mêmes. Et ça, ça me paraît absolument important. Donc le comité, il joue pour le médecin qui se pose des questions, mais aussi pour le patient.
Sur l'avortement, vous avez cette très belle phrase. L'enfant qui n'est désiré par personne n'est pas une personne.
Oui.
On peut y revenir ?
Moi, je considère...
La notion de personne ici est oui. Tout à fait fondamentale.
Alors là-dessus,
on ne naît pas une personne, on devient une personne.
Il faut être clair, hein, on n'est pas tous d'accord chez les philosophes. Certains considèrent qu'il y a une personne dès qu'il y a un code génétique. Moi, je considère qu'il y a une personne dès qu'il y a une relation. Et que
c'est en fonction, par exemple, de vos croyances religieuses. Vous-même, vous êtes croyante?
Je l'ai été très très longtemps. Je ne le suis plus, mais c'est pas en fonction de croyances religieuses. Non. Même si je pense que le christianisme a eu cette invention géniale de considérer Dieu non pas comme une personne, mais comme trois personnes, c'est-à-dire comme relation entre des personnes. Et je pense que un enfant devient une personne peu à peu. Il commence à devenir une personne quand les parents s'intéressent à lui. Et alors, la génération actuelle, elle a un avantage extraordinaire par rapport à la mienne. La mienne, elle savait que l'enfant était là parce que le gynécologue l'avait dit, mais à partir du 4e ou 5e mois, quand on le sentait bouger. Tandis que maintenant, les parents ont accès à une échographie. Donc la personnalisation du bébé est beaucoup plus précoce. Mais cette personnalisation, elle va continuer avec la donation d'un prénom. Et c'est très marquant que certains parents donnent un prénom au bébé, mais ne veulent pas le dire aux grands-parents. Hein, c'est leur secret à eux, et ils le diront après. Bon, ça continue quand le bébé naît, et ça s'accentue dès lors qu'on parle au bébé non pas comme à une chose, non pas comme à un animal de compagnie, mais comme à une vraie personne. C'est-à-dire qu'on lui parle de manière intelligible. Qu'on dise pas le bébé, mais qu'on dise Tom ou Claire. Donc oui, je crois que c'est un processus.
Ma question va peut-être être très naïve, mais si on transfère ce raisonnement aux personnes en fin de vie,
bah oui.
À partir du moment où quelqu'un est visité, à partir de quelqu'un est encore l'objet de projection affective et une personne en fin de vie,
il reste une personne.
C'est le cas, il reste une personne.
Oui, pour moi,
donc,
oui.
L'argument plaiderait plutôt pour empêcher qu'on mette fin à une vie sur laquelle d'autres continuent à se projeter alors même que celui qui la vit ne la vit plus.
Oui, mais là, je prends mes marques parce que je pense à Vincent Lambert.
Oui. Hein,
et que je pense que là, il y a eu une injustice profonde parce qu'on n'a pas tenu compte de ce qu'il avait dit et que la vie des parents a primé sur la vie de l'épouse, ce qui me paraît scandaleux. Donc, oui, un comateux n'est pas un légume. Ça, c'est sûr. Un comateux, on lui parle, et même s'il ne répond pas, il reste encore symboliquement une personne. Mais c'est aussi ce qui fait la différence entre un cadavre et une charogne. Un cadavre, c'est le reste humain d'une personne. Et c'est pourquoi je suis absolument contre les expositions de cadavres plastifiés ce qu'on peut voir à Amsterdam ou à New York. Un cadavre, c'est un objet de respect. Alors le respect peut être très très différent. Il peut être laissé à manger aux animaux, enterré, brûlé.
Selon
les rituels. Mais dans tous les cas, on reconnaît une personne qui a vécu. Mais je reconnais que la position, elle est limite. Quoi. Moi, je la maintiens, mais elle ne peut pas être absolument rigoureuse.
Dans tout votre livre, vous êtes très au fil des citations, des expériences, vous êtes très attaché à l'information, notamment du patient et de ses proches, bien sûr, mais du patient d'abord,
et puis
de
plus en plus
et de celle qui vit, qui se transforme, qui souffre, qui veut cesser de souffrir, qui veut mourir. Bon, voilà.
Pour moi, l'information me paraît décisive. Et je dirais de plus en plus, parce que maintenant je réfléchis un peu à la maladie chronique et à l'éducation thérapeutique du patient chronique. Et le patient, on lui doit la vérité. Parce que si on ne lui dit pas, alors, sauf si vraiment il manifeste qu'il ne veut pas savoir, mais si on ne lui dit pas, on le traite comme un incapable, un impuissant. Mais même un enfant a droit à la vérité.
Cher monsieur, mon diagnostic est formel. Vous souffrez d'une appendicite chronique. Je vais donc vous placer sous antibiotiques, mais le risque d'opération n'est pas à exclure.
Et ça va me coûter combien ?
Je vous ferai un forfait de 2500 francs TVA comprise.
C'est horriblement cher.
Bien sûr, mais pour ce prix-là, vous avez droit à 6 consultations, une prise de sang, 2 radiographies, 10 millions d'unités de pénicilline, 8 jours d'hôpital et un porte-clés.
Je ne dis pas le contraire, mais tout de même, 2500 francs, vous ne pourriez pas me trouver une maladie moins onéreuse ?
Si vous voulez, je soigne aussi des corps au pied en 3 séances pour 20 francs.
Ah ben, ça, c'est dans mes moyens.
Extrait d'un sketch de Jacques Martin et André Torrent, c'est en 1970, une archive de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Donc, il doit avoir il doit connaître la vérité qu'il peut connaître sur son état. Deux,
qu'il peut connaître.
Ben oui, parce qu'on ne comprend pas tout de ce qu'on vous dit. Il y a un livre qui est très extraordinaire de ce point de vue-là, ce sont les carnets de Mathieu Gallet, qui était un critique de radio et qui a été atteint de la maladie de Charcot et qui a écrit sa dégénérescence tous les jours. Et lui, d'abord, il explique qu'il y a eu beaucoup de temps avant qu'un médecin lui dise exactement ce qu'il avait. Et ensuite, il n'a pas voulu le dire autour de lui pour pas faire de peine. Et ça crée des relations absolument délétères. Donc je crois, oui, qu'il faut dire. Et que si le patient est informé de ce qu'est sa maladie, de ce qu'elle implique, de la manière dont on peut la contrer, ça peut donner des choses extraordinaires. J'ai un petit-fils extraordinairement intelligent et diabétique, type 1, donc insulino-dépendant. Il a appris sa maladie à 5 ans. Bon, ça a été difficile, il en a maintenant 10. Et régulièrement, il me donne des cours. Il m'explique, est-ce que tu sais, mamie, pourquoi un diabétique doit faire du sport ? Alors, je donne des explications plus ou moins bonnes, et il m'explique comment le sport corrige l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, mais au bout de combien de temps ? Enfin, il a une connaissance, une précision remarquable, ce qui lui permet de dire « Jamais je n'accepterai qu'on me dise que mon diabète m'empêchera de faire ce que je veux faire. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que ce qu'il veut faire sera peut-être pas ce que d'autres voudront faire, mais il fait du sport, il a des relations.
Enfin, mais là, on est dans une situation où l'information, on peut en faire quelque chose.
Oui.
Voilà, parce qu'il est, du coup, il peut rebondir et il peut vivre sa vie. Il y a des situations où l'information, elle est brutale, elle est purement négative, elle est sans espoir, etc.
C'est pas l'information ce qui est négative, brutale et sans espoir. C'est la manière dont le médecin le dit, parce qu'il a peur. Mais on peut donner une information sur une maladie grave, pas brutalement, mais par étapes. On peut, oui, on peut. Si on vous dit que vous avez un cancer ou une maladie de Charcot, que dans 6 mois vous serez mort, c'est pas réjouissant, je suis d'accord. Mais on peut vous dire aussi ce que vous pouvez faire pendant ces 6 mois, ce à quoi il faut renoncer. Mais quand on est en bonne santé, ça paraît épouvantable. Mais lisez Mathieu Gallet, vous verrez le nombre de choses qu'il a faites. D'autres choses, il y a des choses qu'il ne pouvait plus faire. Il raconte qu'il avait l'habitude d'aller dans...
Tout le monde n'a pas cette sagesse, pour reprendre.
Ni ce dynamisme.
Oui.
Mais il faut quand même apprendre aux enfants, aux adolescents, qu'il y a des choses difficiles dans la vie. Et qu'il faut apprendre à consommer moins et à vivre
autrement. Vous citez le formidable livre de Fritz Zorn, Mars.
Ah oui.
Qui peut peut-être en dire un mot, parce que c'est un rapport à la maladie, au cancer, qui est complètement...
C'est surtout la découverte par le cancer qui peut échapper à sa famille.
Oui, c'est ça.
C'est ça qui est assez ahurissant. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un modèle, hein. Évidemment, non.
Non, c'est un cas un peu limite et probablement un peu provocateur, mais oui, c'est le cancer comme liberté face au monde monstrueux, quoi. Enfin, on peut presque le dire comme ça. Enfin, le cancer comme choix, enfin, il le dit, la première page est tout à fait saisissante.
Il le dit, oui. Je ne dis pas que je le partage, mais...
C'est une voix dissonante qui mérite d'être entendue, mais ne serait-ce que pour des raisons littéraires.
Oui,
c'est un livre formidable.
C'est un livre extraordinaire.
Mais droit de savoir et droit de ne pas savoir. Droit à la discrétion, comme vous dites à un moment aussi dans votre livre.
Oui, parce il faut entendre, c'est le propre quand même des bons médecins, ça, d'entendre ce que le malade est en capacité d'entendre, parce que si vous lui dites des choses qu'il ne comprend pas ou qu'il va évacuer, ça ne sert à rien. Donc, un certain nombre d'informations doivent être données, je pense, par étapes et répétées pour qu'on sache comment gérer. Mais il y a aussi un droit de ne pas savoir parce que...
Un droit au déni aussi.
Bah oui, le déni, c'est un choix.
De refuser de voir. Et...
Quelqu'un qui ne veut pas savoir... Ouais. On n'a pas le droit à la famille, je veux dire, on n'a pas le droit. La famille n'a pas le droit ni de ne pas lui dire, ni de lui dire brutalement.
Oui, moi j'ai connu des familles qui géraient le cancer par le déni pour ne pas plomber les derniers mois, etc. Et d'une certaine façon, ça fonctionnait. Alors, pas sur le mode de la vérité.
Ça dépend des personnes.
Ça dépend des personnes, oui. Et des milieux sociaux.
Il n'y a pas de règle individuelle. Ouais. Je pense souvent à Gérard Philippe, qui n'a jamais su qu'il était malade et qu'il allait mourir. Parce qu'au fond, on ne savait pas trop. Et puis parce que sa femme a choisi de ne pas lui dire. Mais est-ce qu'il n'aurait pas préféré lui savoir? Pour le peu que je connais de l'acteur, je pense qu'il aurait aimé savoir. Mais peut-être que sa vie a été plus facile et plus heureuse en ne sachant pas. Il n'y a pas de règle. Il faut s'interdire le mensonge, ça je crois que c'est sûr. Faut pas euphémiser, mais il faut dire les choses comme elles sont, clairement, simplement et avec bienveillance.
Et progressivement.
Et progressivement, oui, certainement. D'autant qu'il y a des maladies pour lesquelles on pensait qu'il n'y avait pas de thérapie, et puis les thérapies sont arrivées peu à peu.
Vous dites à un moment, que je retrouve votre phrase, que c'est le droit le principe d'autonomie du patient doit primer sur le principe de bienfaisance du médecin. Vous dites ça.
Oui, si je le dis, c'est que je le pense.
C'est qu'aussi, à un moment...
Le principe d'autonomie du patient, c'est que c'est le patient qui est malade, c'est le patient qui vit sa vie, c'est le patient qui choisit quel type de vie il veut vivre. Et donc, le principe d'autonomie, c'est je dois décider ce qui est bon pour moi. Alors, peut-être que je me trompe. Peut-être que le médecin peut m'éclairer en m'aidant à élucider ce que je considère comme mauvais. C'est souvent ce qui se passe dans les soins palliatifs. Le malade dit qu'il en a marre, que la vie qu'il vit n'est plus une vie, et on essaye de voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui le rend malheureux. Pas souffrant, mais malheureux. Enfin, souffrant, ça se corrige par des antalgiques. Malheureux, ça se corrige autrement. Enfin, là, la bienfaisance ne consiste pas à nier l'autonomie du patient, mais à l'éclairer. Et je crois qu'on vit mieux un malheur si on comprend ce qui se passe.
On arrive un peu au terme de cette émission. Moi, je suis très frappé par et dans le livre également, bien sûr, dans la centralité que vous accordez au fond au langage, au discours, aux mots, et au fond le rôle de la philosophie serait, si je comprends bien, de permettre de clarifier, de permettre aux individus de faire des choix en connaissance de cause, en ayant la capacité à voir clairement dans les enjeux qui se posent autour des choix thérapeutiques, etc. Est-ce que ça veut dire que vous interdisez de raisonner à une autre échelle qui serait par exemple celle des politiques de santé ou des modes de fonctionnement des hôpitaux,
sûrement,
etc.
Pas, mais à chacun son métier. C'est-à-dire qu'il faut évidemment réfléchir en politique de santé. Mais ce n'était pas mon problème à moi, là.
Pas au sein du comité, on est d'accord. Oui.
Ben non, mais en revanche, il y avait un colloque sur la vaccination à la fac de droit le mois dernier où j'étais. Ça me paraît très très important. Le philosophe peut-être réfléchir sur ce que c'est qu'une prévention et le rapport entre la prévention, le droit. Est-ce qu'il y a un droit à ne pas se faire vacciner? Pourquoi? Quel est le rapport entre le vaccin pour se protéger soi-même et pour protéger les autres, est-ce qui est l'élément important? Mais on n'est pas omnicompétent. Moi, je laisse aux sociologues le travail des sociologues et aux politiques le travail de politique. Mais en revanche, en tant que philosophe, je peux intervenir sur ce que c'est que la solidarité ou sur ce qu'est l'interdépendance. Moi, je me fais vacciner contre la grippe, pas seulement parce que je ne veux pas l'avoir, mais je ne veux pas la transmettre à mes petits-enfants, je ne veux pas la transmettre aux étudiants quand je fais un cours. Enfin, ce n'est pas simplement une défense personnelle, puisque je peux me soigner à la maison en fermant ma porte, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de pouvoir être avec d'autres. Donc, oui, je fais le pari de la lucidité et je fais le pari du parler vrai et juste. Et je pense que...
Et de l'utilité du langage.
Ah ben oui, mais du langage maîtrisé. Oui, parce que pas du langage mensonger, pas du langage métaphorique, pas du langage doucereux, pas du langage moralisateur, du parler vrai.
Pour retrouver votre parler vrai, on ne peut qu'encourager inciter les auditeurs de Canal B à lire votre livre « Le médecin, le malade et le philosophe ». Édité au Pur et qui coûte 18 euros. Merci Jacqueline.
C'est pas cher, hein?
Absolument. Merci Jacqueline Lagré. Merci à Christian Lebar et à notre réalisatrice Lucille Wapre. Et rendez-vous le mois prochain pour une autre émission de Chercheurs en Vie.